Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aglété de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous recevons aujourd'hui une amie de Podcastine, poétesse, autrice d'un livre qui vient de paraître et qui s'appelle « Les hommes sont absents ». Bonjour Nathalie Mann.
Bonjour Jean.
Nathalie, vous êtes donc poétesse, street artiste. Quand on se promène à Bordeaux, on peut avoir la chance de tomber sur certains de vos poèmes accrochés au mur. J'ai manqué de soleil, peut-être même de ta voix. Je voulais te dire qu'à chaque seconde, le temps revient en arrière, comme si chaque vague s'éloignait de la rive. Je suis au plus profond de l'attente et j'ai tout mon temps.
Ouais.
Ce poème-là, il s'appelle « Déconfinement ».
Ouais. Que j'ai collé sur les panneaux d'affichage pendant l'entre-deux tours des élections municipales,
ouais,
à Bordeaux.
Et on a pu vous rencontrer avec Podcastine durant la balade imaginaire qu'on mettra en lien dans la description.
C'est super ça, ouais, c'était un confinement dur, c'était un confinement dur, ouais. 2020. Mm-hmm.
Alors je l'ai dit, on va parler très rapidement de ce livre, hein, dans quelques instants, les hommes sont absents. Mais avant cela, j'aimerais beaucoup que les auditrices et les auditeurs de Podcastine vous connaissent un peu mieux. Vous avez eu donc la gentillesse de nous accompagner pour cette balade imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, Nathalie, de l'artiste que vous êtes et de votre démarche? C'est une vocation qui vous est venue tôt, d'ailleurs vous en parlez dans le livre.
Ouais, j'ai commencé à 7 ans, donc moi j'ai été fascinée par la poésie de Jacques Prévert. Alors ça a l'air banal, mais voilà, j'adore Jacques Prévert et j'adore son recueil paroles. C'est le premier recueil de poésie vraiment qui m'a touchée. Pourquoi ? Parce que c'était simple, des mots très efficaces. Il parlait de choses assez dures quand même. Moi, le poème qui me revient le plus souvent, toujours, hein, c'est la mère, c'est familial. La mère fait du tricot, le père fait des affaires et le fils fait la guerre. Donc voilà, ça c'est la première chose. Comment est cette vocation ? Bah, j'ai commencé à écrire très, très jeune, à faire des concours de poésie, mais à ne pas songer, enfin à aucun moment j'ai songé en faire mon métier, parce que je ne savais pas qu'on pouvait être écrivain de métier, qu'on pouvait en vivre en fait. Donc autour de moi, ma mère faisait des ménages, après elle a été vacataire, donc prof d'espagnol par intermittence, et j'avais pas trop de modèles d'artistes, de gens qui étaient artistes, voilà. Donc voilà, j'ai fait des études assez classiques, donc j'ai fait après le bac S une prépa, et après je suis partie faire l'aide moderne à la Sorbonne, j'ai passé Sciences Po Grenoble, j'ai fait 5 ans, après je suis au conservatoire du 14e, faire comédienne, voilà, et donc c'est là où vraiment, après le diplôme de Sciences Po en tout cas, c'est là où je me suis dit que je voulais écrire à tout prix. Donc je savais pas trop, je me lançais, je pensais pas j'allais être aussi précaire, mais voilà, c'était plus fort que moi, donc ça s'est fait comme ça.
Nathalie, hein, je l'ai dit, les Bordelaises et les Bordelais vous connaissent pour beaucoup parce que votre poésie s'invite dans leur rue et donc s'invite à leurs yeux. Vous emmenez la poésie à la rencontre des gens. Quand vous est venue cette envie de coller vos poèmes, et surtout pour quelle raison?
Alors, j'ai commencé en 2013, donc c'était Canal Saint-Martin, donc la rue Yves Toudic, rue du nom d'un syndicaliste. Donc j'ai commencé à coller en août 2013.
Hein, à Paris donc?
Oui, pardon, à Paris dans le... Alors c'est quoi, je pense que c'est le 11e. Donc c'était le poème « Le monsieur du boulevard Saint-Martin ». Donc c'était un poème en hommage à un sans-abri qui se lavait les dents tous les jours à la Porte Saint-Martin. J'ai pas trouvé de place à la Porte Saint-Martin pour le coller en voilà, et donc je l'ai collé un peu où je pouvais et puis où je trouvais que c'était plus légitime ou toléré. Donc rue Yves Toudic, donc aux abords du canal Saint-Martin, c'est un mur qui est on va dire voué au street art. Mais moi j'ai collé sur le mur d'en face, hein, parce que un graffeur m'avait dit non mais attends, là c'est trop, c'est blindé, en plus là tu veux coller sur UV, donc UV ça veut dire ultraviolet. Donc si on colle dessus, ben ils viennent nous chercher, enfin ils nous cherchent, hein, ils nous trouvent et puis ils nous cassent la gueule. Donc j'ai collé en face et j'ai fait ce que m'a dit ce graffeur Roger à l'époque, ouvre les murs, et j'ai commencé à ouvrir les murs, c'est-à-dire à coller sur des murs propres. Voilà. Donc ça m'est venu tout simplement parce que je voulais sortir des milieux de poésie. Donc j'ai toujours dit, mais je le redis, hein, des huis clos de poésie, c'est vrai que c'est un milieu quand même assez âgé. Et je trouve ça... Pour moi, ça manque de dynamisme, ça manque de corps. Je sais que c'est physique, hein, l'écriture, mais ça manquait de... J'ai plus d'énergie que ça, j'avais besoin de vraiment de la dépenser. Et puis, je voulais l'abandonner à tout le monde. Et je trouvais que la rue, il n'y a rien mieux que la rue pour abandonner quelque chose à tout le monde, puisqu'il n'y a aucune sélection qui est faite. Je veux dire, un passant, une passante se balade, ou rentre chez elle, va travailler, et donc elle tombe au hasard sur un poème. Et donc, il y avait une deuxième chose qui était très importante, c'était que je voulais trouver une manière de gagner ma vie, j'avais monté un projet de thèse, et donc pour ce projet de thèse, je voulais vérifier la théorie de la coopération textuelle d'Umberto Eco, qui dit qu'un texte n'est pas fini tant que le lecteur ne se l'est pas approprié. Et donc, par ces affiches que j'abandonnais dans les rues de Paris, j'attendais une appropriation du lecteur littéral. Donc, un lecteur ou une lectrice qui allait modifier un vers, rajouter une strophe, faire des dessins, arracher l'affiche, tout ça était pour moi une intervention qui était porteuse de sens.
Et je précise que le poème que vous avez cité, comme tous vos poèmes d'ailleurs, peuvent être retrouvés sur votre site, de manière d'ailleurs très simple. Hein, et là encore, c'est un outil que l'on peut s'approprier, même si on n'est pas très à l'aise avec Internet. L'outil de recherche est assez simple, donc j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à aller visiter votre site.
The measure of any society is how it treats its women and girls.
Alors Nathalie, vous aviez déjà publié le journal d'Elvire aux éditions Le Bord de l'eau, mais aussi Impression de Pékin aux éditions Les Xérographes. Cette fois, vous signez Les Hommes sont absents aux éditions Lanskine. Trois générations de femmes, votre grand-mère maternelle, votre mère et vous-même. Les deux premières ont vécu dans l'Espagne de Franco jusqu'à sa mort en 1975. Vous-même avez grandi en France, mais avez gardé des liens forts avec l'Espagne. Vous racontez donc leur histoire, leurs histoires, vos histoires, parfois légères, parfois et même souvent dures ou très dures. Votre livre est une succession de scénettes, d'anecdotes. Comment vous est venue l'envie de raconter ces histoires et de cette manière, Nathalie ?
Alors, ma mère me racontait depuis, on va dire, 2012 peut-être, quand je suis revenue de Pékin. Et donc je suis arrivée à Paris. Ma mère a commencé à me raconter des petites scènes comme ça revenait. Me raconter des scènes à l'école, en fait, où elle montait le drapeau d'abord de la Falange et après de l'Espagne et qu'elle chantait le Cara al Sol, qui est l'hymne falangiste, hein, l'hymne facho, hein, fasciste du coup. À chaque fois qu'elle me racontait des scènes comme ça, j'avais des images. Et donc en 2015, quand je suis arrivée à Bordeaux, quand j'ai quitté Paris, les premiers artistes qui m'ont accueilli, c'est des artistes dessinateurs, donc dans le milieu de la bande dessinée. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je pourrais en faire un scénario de toutes ces petites scénettes. Donc, j'ai fait un scénario de BD qui s'appelait Manolito Pili. Manolito, en espagnol, ça veut dire garçon manqué. Et donc, pour raconter un peu cette ambiance du franquisme en Espagne et l'histoire de ma mère exclusivement. Donc, une maison d'édition locale avait été intéressée, mais on ne trouvait pas de dessinateur ni dessinatrice. Donc, à la fin, j'en ai trouvé, mais ça ne lui plaisait pas, donc j'ai abandonné. Je suis partie sur un autre récit qui s'éloignait de ma vie, qui s'éloignait de ma mère. Voilà, je parlais de ça sans parler de ça, bon, ça ne marchait pas. Et donc, c'est vraiment ce confinement, là où on a eu cette balade imaginaire, là. Donc, pendant ce confinement dur, on avait une heure pour se balader de liberté, là, par jour, accordée par le gouvernement. Et donc, je vais aller voir ma mère en centre-ville, à vélo, et donc, j'ai commencé à l'interviewer. Elle me dit, en fait, pendant ce temps-là, ce temps mort, je vais en faire quelque chose, quoi, parce que bon, on ne peut rien faire d'autre. Et donc, j'ai interviewé de façon beaucoup plus rigoureuse que je l'avais fait auparavant. Et donc, 5 ans auparavant d'ailleurs. Et donc, c'est venu comme ça. C'est-à-dire que moi, je l'interview et je prends tout le matériel, toute la documentation possible, tous les matériaux possibles, on va dire. Et puis, et c'est au fur et à mesure que je me rends compte qu'il va y avoir plusieurs voix. Et pourquoi pas celle de ma grand-mère, de ma mère et la mienne. Voilà. Et pour dans cette idée de faire un contraste, c'est-à-dire de, à chaque fois, ne pas perdre de vue que ma voix sera celle de la génération chanceuse qui n'est pas née en Espagne, qui n'a pas vécu la dictature et qui n'a pas été lobotomisée par cette culture catholique fanatique, quoi.
Oui, cette culture catholique et puis aussi cette culture politique, parce que vous évoquez l'attachement de votre grand-mère, notamment justement à la Phalange, aux personnages qui ont fait le franquisme, dont Primo de Rivera, hein, pour qui elle éprouve une sorte de fascination absolue.
Ça, c'est le grand-père hein, plutôt. Ma grand-mère, c'est une franquiste par opportunisme.
D'accord.
Je dirais, mais ouais, c'est plutôt mon grand-père qui en est fait très phalangiste et qui a une idole, c'est José Antonio Primo de Rivera.
En un mot, vous pouvez nous rappeler qui était Primo de Rivera?
Alors, José Antonio Primo de Rivera, bon, dans mes souvenirs, hein, c'est un intellectuel fasciste, hein, d'accord, qui parle, qui est polyglotte, hein, qui présente très bien, et donc qui va poser les bases de la Phalange et donc du fascisme espagnol. Donc c'est un peu le pendant du fascisme italien, on va dire, mais en Espagne. C'est quelqu'un qui passe pour quelqu'un d'assez cultivé. Et qui en 36 donc va être capturé par les républicains, tandis que le fils du président de la Segunda República, le fils de Manuel Azaña, va être pris par les franquistes. Franco ne veut pas faire un échange de prisonniers et donc les deux meurent. José Antonio Primo de Rivera, le 20 novembre 1936, et le fils du président de la Segunda República. Ce qui arrange, je crois, beaucoup Franco pour garder le pouvoir, puisque donc je ne sais pas si vous avez vu le film Être à Franco, qui en espagnol s'appelle Mientras dure la guerra. C'est pas pour rien, ce titre. C'est que dans les documents officiels, on disait que Franco était généralissime d'Espagne, chef d'Espagne, tant que la guerre durait. Mais il n'avait pas vocation à rester 40 ans au pouvoir. Mais il s'est accroché au pouvoir, voilà.
On va revenir un peu sur le fond, hein, mais d'abord sur la forme de cet ouvrage. Alors je pense qu'on doit vous le dire à longueur d'interview, votre livre évoque irrésistiblement le cinéma d'Almodovar. On a le sentiment d'une ambiance commune, ces histoires de femmes qui renforcent bien sûr la parenté entre les deux œuvres. Ça vous inspire quoi cette comparaison?
Alors déjà moi je suis hyper flattée, c'est la première fois, hein, donc je suis hyper flattée. Je sais pas s'il y a autant de couleurs que dans Almodovar, parce qu'Almodovar il y a quand même une folie. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est très important, Almodovar, parce que « Mujeres al borde de un ataque de nervios »,« Femme au bord d'une crise de nerfs », a été un film phare dans ma famille. Ma famille a toujours cité ce film. À l'inverse, elle n'a jamais cité « Cria cuervos » de Carlos Saura, qui est mort il y a trois semaines, un mois, qui, en fait, pour moi, est plus représentatif de cette ambiance-là du franquisme. C'est ça, en fait, le franquisme, pour moi. Et j'ai une révélation quand j'ai vu ce film-là. C'est ces non-dits, ce mal-être, ce malaise, cette femme qui subit, hein, Géraldine Chaplin, qui subit tout le long, qui va même crever. Et cette mélancolie, peut-être aussi. Alors après, bien sûr, ça, c'était une famille qui vivait à la ville, bon, à Madrid, quoi. Donc là, ma mère habite dans des villages. C'est différent, quand même, la campagne et la ville. Mais moi, je dirais que moi, je suis très flattée de cette comparaison, que c'est vrai que pour ma famille, c'est très important. Et pourtant, je dirais que ce qui, pour moi, caractérise plus ce que j'ai plus ressenti de ma famille, c'est plus ça, c'est plus Carlos Saura, quoi, qui a fait un chef-d'œuvre et que j'ai jamais trouvé d'égal.
Immortalisé aussi par la chanson de Jeannette, évidemment.
Porque te vas.
Parce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de folie dans votre famille, qu'il n'émane pas de la folie du livre que vous avez écrit.
Ben, tu sais que moi, j'ai pas cette distance pour voir cette folie, mais. Peut-être que ça manque de transe, de sexe peut-être, de maquillage. Dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de maquillage. Il n'y avait que le parfum de ma tante qui est devenue médecin. Un parfum qu'elle prenait à la pharmacie qui pour moi, que je n'ai jamais ressenti, mais pu ressentir ouais, cette fragrance. Mais c'est tout. À vrai dire, pas trop. Ouais. This is a life. Free from destiny, not only what we sow, not only what we show. This is a life. Every possibility. Free from me, not only what we sow.
Not only what we show. Ces trois femmes, Nathalie, dont vous, avez grandi et vécu dans une atmosphère très marquée par la religion, par l'importance du patriarcat. Beaucoup de non-dits, de tabous, d'oppressions intégrées, d'une certaine manière. En particulier, tout ce qui touche à la sexualité, à la santé des femmes aussi. Vous aviez conscience de tout cela avant de coucher ces mots par écrit ?
Pas à ce point, je crois. Pas à ce point. Il fallait que je passe par là. J'avais eu, à 16 ans, quand ma mère m'a dit, non, mais c'est pas 16 ans, parce que bon, c'est un jeune. Mais je sais pas, à 20 ans, quand je lui ai demandé des conseils, elle m'a dit, non, mais attends, c'est plus que moi. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est grave. Parce que je sais rien du tout. Donc, c'est plutôt, oui, après, en fait, c'est les correspondances qui m'ont vachement éclairée, en fait. Quand ma tante dit, à 23 ans, qu'elle a pas encore fait l'amour, qu'elle attend l'homme de sa vie, et que, c'est tard, quoi. Je dis pas que j'ai pas des camarades qui ont fait l'amour, commencé à faire l'amour très tard, mais plutôt moi, au collège, d'ailleurs, Chevrus où j'étais, les gens faisaient l'amour très tôt. Donc, ouais, ça me paraissait. Ce qui me paraissait plus triste, c'est pas tellement de le faire tard, parce que bon, on fait l'amour, enfin, voilà, chacun, voilà, son temps et c'est complexe, etc. Et puis ça, mais son désir, mais c'est plus le fait du plaisir, quoi. Il y avait pas de place dans la sexualité, et ça, c'était grave. C'est grave.
Nathalie, je trouve que les scénettes que vous décrivez ressemblent à vos poèmes, des écrits courts, presque en forme de poing dans la gueule, comme dirait Renaud. Qu'est-ce qui relie, selon vous, cette écriture et celle de vos poèmes ?
L'urgence. Je crois qu'il y a que ça. Parce que mon projet poème de rue s'appelle aussi L'urgence des détails, hein, c'est le sous-titre de ce projet. Donc l'urgence, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, je crois. C'est déjà suffisant avec ce qu'il y a. C'est déjà assez dense et assez dur, je dirais. Donc, le besoin d'épurer, d'aller vite à l'essentiel, quoi. Je crois que j'ai pas trop de temps à perdre, même si peut-être que j'en perds beaucoup, mais j'essaie d'aller à l'essentiel, ouais. Ouais. Donc, c'est ça, l'urgence, hein. Pour être lu au plus vite et pour pas perdre le lecteur dans ce que pour moi n'est pas nécessaire. Ouais, le sens avant tout, quoi.
Nathalie, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous écrivez, c'est que votre mère a lié son destin à celui d'un homme qui était d'une toute autre culture, hein, vous allez nous l'expliquer dans un instant, et pourtant on a eu l'impression vraiment de la reproduction d'un même schéma culturel, social, familial. C'est étonnant ça, vous aviez conscience de cela également en écrivant ?
Non, alors après moi ça me paraît naturel parce que j'ai vécu les violences de mon père quand j'étais petite, donc pas moi personnellement, hein, je les ai vues, qu'il était violent que ma mère. Est-ce que les Chinois sont moins machos? Je crois pas. Bon,
c'est la nationalité de votre père. Hein,
alors oui, donc il est hongkongais, ouais. Donc attention, il est hongkongais, donc pas chinois. Il était anglais, donc mais sous britannique, puisque les Britanniques ont un système bien à eux. Hein, je n'ose pas dire le mot racisme, mais il n'est pas loin. Et donc considéré comme un sous-anglais. Voilà. Donc il a toujours dit, c'est pour ça qu'il a changé de nationalité plusieurs fois, je crois, ou en tout cas une fois, pour échapper à ça, à ce statut-là, à ce semi-statut. Ouais, elle a embrassé ce schéma-là parce que le catholicisme. Et franchement, je vois pas d'autre possibilité que ça. De cette soumission et de ce pardon sans cesse et de peut-être cette ferveur, enfin idolâtrie, je sais pas, quelque chose de naïf aussi peut-être, cet amour naïf en fait, inconditionnel en fait. Oui ben non, en fait il va falloir peut-être arrêter, hein, je crois que voilà, donc que normalement est destiné qu'à Dieu, quoi, éternel, inconditionnel, quoi.
Pas citer beaucoup d'extraits parce que j'invite vraiment à aller découvrir votre livre, bien évidemment, mais une chanson paillarde apprise à l'école était tout de suite interdite à la maison, un documentaire sur la reproduction des vaches déclenchait une lettre d'indignation à la directrice. Toutes mes questions restaient sans réponse. Je lui demandais, à votre mère, Quand devrais-je porter un soutien-gorge? Comment devrais-je agir pendant les règles? Quoi mettre? Comment le mettre? Nathalie, dans votre livre « Les hommes sont absents », vous évoquez l'importance de l'oppression patriarcale sur les choix, les corps, la santé des femmes, plus encore dans le passé, mais aujourd'hui encore. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit un livre féministe?
Ah bah oui, c'est sûr. Alors là, cette question est une bonne question, mais la réponse est oui. Oui, parce que... bon, alors déjà, moi, je dois beaucoup à toutes celles qui m'ont précédée. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est la vague hashtag MeToo. Hein, donc, ça m'a totalement concernée, hein, 2017. Hein. Donc, moi, en 2015, je eu de l'harcèlement sexuel au travail. Hein, et donc, MeToo n'était pas encore arrivé. Donc, quand MeToo arrive, moi, ça me parle. Donc, oui, c'est féministe. Pourquoi? Parce que je parle de récits de femmes. Alors, on va dire, c'est peut-être banal. Hein, mais je ne veux pas épargner le lecteur, mais je ne veux pas non plus l'accabler. C'est juste que je lui donnais tout un peu tous les pans, en fait, de la vie de ces femmes-là que j'ai connues, que je connais, dont j'ai pu avoir accès à toute leur intimité, correspondance, journaux intimes, et qui m'ont raconté, voilà, en fait, un peu la sexualité, comment elles ont été élevées. En fait, c'est question d'éducation. Donc, pourquoi je suis féministe et pourquoi le livre est féministe? Parce que j'espère que ça ne va pas perdurer. Je ne veux pas que ça perdure. Je veux que, en fait, femmes et hommes, eh ben, ils aient conscience de tout ce que, de ce qu'est le patriarcat, que le patriarcat existe, hein, et donc de comment un individu de tout genre, puisse être le plus libre possible dans ses choix et donc avoir un amour pour son corps, son être, inaliénable, intouchable, en fait. Et ce qui n'est, moi, je trouve que ça n'a pas été le cas pour ma grand-mère, ni ma mère, ni pour moi, d'ailleurs.
Ce désamour pour votre corps qui a failli vous conduire très très loin.
Voilà, bah oui, mais parce que je veux dire, on est dans les années 90, David Hamilton, ça fait du mal. Qu'on ne dise pas que ça n'a pas fait du mal, je veux dire, toutes ces femmes, ces ados photoshopés, moi je crois que c'était vrai, donc peut-être que j'étais totalement idiote, mais enfin j'avais 11 ans, quoi, donc il y a eu une vague d'anorexie incroyable. Moi quand j'étais internée, c'est pas un secret, quand j'étais internée à l'hôpital des enfants à Pellegrin, j'étais une des premières jeunes. Je veux dire, j'avais 11 ans, et donc y en a une qui est morte. Bien sûr, comme toutes finissent finalement par... Pas toutes, mais une partie finissent par mourir d'arrêt cardiaque, parce que le cœur ne peut pas, en fait, continuer à battre. Donc, elle avait 17 ans. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de grave. Il y a aussi des anorexiques que j'ai connues, que je connais encore, qui le sont encore. C'est-à-dire qu'elles vomissent, ça fait 20 ans qu'elles sont... Enfin, je veux dire, ça fait des séquelles énormes. Donc, non, ça, il faut dire les choses. La première chose, c'est le dire. Et puis, au fur et à mesure, éduquer, espérer mieux. Ouais.
C'est ça le but de votre livre, finalement, c'est espérer mieux?
Alors oui, c'est même, je dirais même plus que espérer, c'est construire mieux. D'ailleurs, c'était ça, en 2016, il y a eu le mouvement « On vaut mieux que ça », qui m'a vachement touchée, parce que moi, j'étais diplômée de Sciences Po, j'étais au chômage, et qu'il y a eu, après, « Nuit debout », moi, j'avais écrit un texte, je m'en rappelle, hein, qui est dans Perception, que c'était dans Carnet l'inutile avant. Et c'était... en fait, la jeunesse, c'est quoi pour moi? C'est on peut faire mieux. Parce que si on croit qu'on peut pas faire mieux, alors à quoi ça sert, quoi? Donc mieux, eh bien, c'est pas forcément question d'exigence ou de... Je veux être une étoile de l'opéra. C'est vraiment... Mieux pour moi, c'est dans les valeurs. C'est-à-dire, en fait, je vais pas épouser la médiocrité ambiante. Enfin, j'espère ne pas le faire. Enfin, je vais tout faire pour ne pas le faire. De laisser la solidarité au banc, de laisser, je veux dire, des choses qui vont permettre une meilleure humanité. Et donc, il va falloir un max d'informations, un max de connaissances, de la bienveillance. Alors, ce mot, c'est vrai qu'avant, je ne l'aimais pas, maintenant, je l'aime à nouveau. De l'amour, de la liberté. Enfin, c'est des grands mots, mais enfin, ça a du sens, quoi.
Est-ce que votre famille a lu ce livre?
Ma mère l'a lu. Alors, quand je l'ai eu, je crois que c'est 11 février, j'étais à Paris, donc elle l'a eu le 9, quoi. Donc, je suis allée chez elle, elle l'avait pas lu avant. Donc, elle l'a eu en version papier, quand je l'ai reçu. Donc, j'étais là au début, elle feuillette, et puis, là, elle me dit, oh, voilà, c'est romancé. Bon, elle critique, voilà. Au bout d'un quart d'heure, je me barre, je me dis, non, ça m'énerve, là. Donc, je pars, et donc, elle m'appelle quelques heures après, et donc, en pleurs, en me disant, voilà, j'ai lu deux fois. C'est très émouvant. En fait, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. T'as raison, c'est pas trop romancé, quoi. Bah non, c'est pas trop romancé. Je suis pas une romancière incroyable, je fais pas la science-fiction encore. Donc, il y a beaucoup de vrai. Après, il y a un peu de romance, mais bon, elle est très à la marge, quoi. Donc, je pense que c'est dur, après, d'assumer. Il y a des choses que, comme par exemple, toute femme qui a été battue, hein, va dire toujours, non, je suis tombée en escalier. Enfin, je veux dire, non, on n'est pas tombé en escalier, on nous a frappé. Mais c'est dur de le dire. Et dur de l'entendre. En fait, ce qui est étonnant pour moi, c'est pas que c'était dur de le dire, en fait. Parce que les femmes le disent. C'est que les gens ne veulent pas l'entendre. Et franchement, j'en ai parlé à ma mère, avec ma mère. Bon, déjà, moi, quand j'étais petite, alors moi, j'étais pas du tout timide, hein, comme je le suis toujours pas. Et donc, j'arrivais en classe, et puis à un moment donné, ma mère s'était fait frapper. Je dis à la prof, consciemment, hein, je lui dis devant tout le monde, est-ce que c'est normal qu'un père frappe sa mère? Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Elle m'a ignorée. Très bien, moi j'étais très énervée, mais je me suis dit, ok, je prends note. C'était juste ça, je prends note. Bon, que plus tard, je savais que ça allait, j'allais pouvoir travailler dessus, prendre ça comme une information importante. Ma mère m'a comme avoué récemment, c'est-à-dire elle ne m'a pas dit avant, qu'il y a beaucoup de femmes, qui sont détournées d'elle quand elle a dit qu'on la frappait. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Je veux dire, oh non, une fille a problème. Bon, enfin, c'est quand qu'on va arrêter de faire ça? Alors, je ne lance pas la pierre à ces femmes-là ou ces hommes-là, bien sûr que non, mais il y a un problème, quoi. Je veux dire, il faut écouter la victime. Déjà que c'est un effort énorme pour elle de le dire. Alors on va arrêter de... Voilà. Donc je sais que ça coûte à la personne l'entendre, mais est-ce que ça coûte pas plus à la personne qui le subit quand même? On est où, quoi? Donc voilà, ça c'est important comme donnée, parce que bien sûr que je le soupçonnais, mais ça a été dit, en fait. Et je trouve qu'il faut un courage, une force immense pour se dire, ok, ce qui m'arrive, c'est pas normal, même si c'est des gens qui se détournent de moi, je vais quand même continuer à assumer ça, quoi. Voilà.
Et je pense que votre livre peut être le bon moyen pour une prise de conscience, au-delà même des personnes qui ont vécu ce que vous racontez, bien évidemment. Lire cela, on peut à la fois prendre conscience de ce que l'on vit éventuellement, mais aussi de la manière dont les choses se sont mises en place petit à petit, et de l'importance du passé familial. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans votre livre, qui est très impressionnant aussi. On le ressent presque physiquement, on ressent ce poids comme un écrasement. Et c'est important aussi de pouvoir dire que l'on peut s'en sortir. C'est, je pense,
bien
le
sûr,
message aussi que je retiens de ce livre.
Évidemment.
Merci beaucoup, Nathalie Mann,
beaucoup
d'être venue au micro de Podcasting.
Avec plaisir.
Je rappelle le titre de votre livre, Les hommes sont absents. Il vient de sortir aux éditions Lanskin. Il est disponible au prix de 15€. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garay-Coetchea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruyot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.